L'océan brûle-t-il ? C'est la question posée par Jean-Yves Collet dans son documentaire éponyme. Le réalisateur est un passionné de la nature avec ce qu'elle abrite de plus grand, mais aussi de plus petit. Une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Le petit me passionne d'abord parce que à un niveau esthétique, tout simplement en tant qu'amateur d'images, en tant que réalisateur, on peut faire de très belles images et il y a de très belles histoires à raconter. Et en plus, c'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément parce que la biodiversité, elle est faite en très grande majorité d'animaux de petite taille, d'insectes, d'invertébrés. On a tendance à vouloir défendre des baleines, des tigres, etc. parce qu'ils nous semblent, ils sont plus proches même au niveau anatomique et au niveau de leur manière de fonctionner. Et qu'en fait, cette grande diversité, y compris la diversité de proximité, celle qui est autour de notre maison, qui est dans notre potager, on a tendance à dire, tiens, c'est un insecte, il va nous piquer, il va bouffer nos légumes, il va faire tout un tas de choses. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout dans des séjours très longs que j'ai pu faire dans les forêts tropicales, on a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Du coup, le fait de proposer et de réaliser des films sur des insectes et de montrer qu'ils avaient un mode de fonctionnement et qu'en fait, quand on connaissait, on avait moins peur, c'était un petit peu toute ma philosophie, tous ces films sur les insectes pendant plusieurs années.
Donc vous, c'est vraiment les insectes et les océans, on dit ça comme ça ?
Disons que c'est pas uniquement ça, mais les derniers temps, il se trouve que, bah oui, vous savez, parfois on commence à faire un film sur un sujet et puis d'un scientifique, on en rencontre un autre qui raconte son sujet d'étude et puis on se dit, ouais, mais il y a un super sujet de film à faire là. Et puis de fil en aiguille, on se retrouve à faire plusieurs films un peu dans les mêmes thèmes. L'océan. Alors ce qui se passe, c'est que l'océan, j'ai rencontré un spécialiste du plancton qui s'appelle Pierre Mollot en Bretagne. J'habitais en Bretagne à l'époque où j'avais fait guerre épée dans le potager et on a fait une série de conférences sur les îles Molène, l'île de Bâle, l'île d'Ouessant, etc. ensemble. Moi, je présentais un petit peu du potager, lui présentait les petites bêtes de l'océan, et puis c'était en plus un personnage qui avait un charisme fort, et donc j'ai lancé un projet où il a été conseiller scientifique, donc, et là, c'était vraiment... Alors, c'était à la fois des petites bêtes pour les animaux, mais il y avait aussi le plancton végétal où on arrive à des microalgues, mais qui est la base de la chaîne alimentaire, ce qui s'appelle le réseau trophique des océans. Et donc, en fait, sans ce plancton, sans ce plancton végétal qui nourrit le plancton animal, etc., jusqu'à la baleine et au requin, il y a rien qui fonctionne. Donc, du coup, on s'est retrouvé encore dans une problématique de petits animaux, avec toujours, on peut pas les éviter si on bouge trop. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, on se dit, oui, mais en fait, s'il y a 3 espèces de plancton qui disparaissent, ça va rien changer. Mais ce qu'il y a, c'est pour l'instant, ça bouge des équilibres, mais à un moment donné, ça peut faire des gros bouleversements. Et ces gros bouleversements, on ne les connaît pas vraiment. Donc, on est dans des contextes passionnants à chaque fois.
Vous êtes allé voir d'autres Européens encore, bien sûr.
Alors oui, on a tourné en Italie, donc sur la tropicalisation des espèces de poissons principalement, donc l'impact que ça pouvait avoir sur la pêche. Les méduses aussi, donc évidemment, ça c'est le thème de la fameuse mer gélatineuse. C'est-à-dire que dans l'avenir, avec le réchauffement climatique et la surpêche, c'est-à-dire encore une fois un phénomène global planétaire et des phénomènes ponctuels locaux, donc de trop pêcher et de déséquilibrer les poissons, ça pourrait favoriser l'évolution d'espèces comme les méduses, sachant que plus on a de méduses, les méduses sont des énormes, sont des carnivores très très efficients, très opérants, et qui vont se nourrir entre autres des larves de poissons, des tout petits poissons. Et donc le fait est qu'on pourrait tout à fait arriver, c'est une des hypothèses possibles, à des mers gélatineuses où on aurait beaucoup plus de méduses. Donc une méduse, c'est quand même 98% d'eau, c'est pas très bon à manger, mais j'ai rencontré des scientifiques qui commencent à étudier les possibilités de manger des méduses. Alors, il y a les Japon, les Extrêmes-Orientaux en incluent dans leur menu. J'ai eu l'occasion d'en goûter, je crois que c'était en Indonésie. Bon, heureusement qu'on fait une bonne sauce avec. C'est quand même pas aussi fin que toutes les variétés de poissons qu'on peut avoir, sans compter que, toutes les espèces ne sont pas consommables. Après ça, j'ai filmé aussi en Angleterre, j'ai filmé sur la mer Baltique aussi, où là, il y a des problèmes, donc, pareil, une méduse, là, qui est arrivée par les ballasts de bateaux. Elle aurait pu mourir parce que la mer est trop froide, mais avec le réchauffement climatique de la Baltique, c'est la méduse Nemiopsis. Elle est arrivée à se reproduire et elle est en train de mettre le bazar justement dans les populations de poissons de la Baltique. Moins que ce qui s'était passé il y a 25 ans en mer Noire. La même méduse avait été apportée de Boston, c'est-à-dire de traverser de l'océan Atlantique, passage du détroit de Bosphore pour arriver dans la mer Noire. Et là, ça avait été un écroulement complet de tout l'écosystème de la mer Noire avec les pêcheurs qui n'avaient plus rien à pêcher. Et c'est l'introduction d'un prédateur de cette méduse qui avait permis de récupérer un peu la sauce. Alors là, au niveau de la mer Baltique, on sait que ce nouveau venu arrive, cette méduse nouvellement venue, arrive à se reproduire, à passer l'hiver en mer Baltique et à bien proliférer grâce au réchauffement aussi de l'eau. Voilà.
On a hâte de voir votre film. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Est-ce qu'il y a une télévision qui l'a d'ores et déjà rapté?
Alors, pour l'instant, le film, c'est un film donc, qui a été fait pour la Commission européenne. Il s'appelle « L'océan brûle-t-il ». Dans quelques mois, il y aura une version télé du film, donc un petit peu plus courte que cette version-là, qui s'appellera « Coup de chaud sur l'océan » et qui pourra être vue par les télés. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore démarché. Mais pour l'instant, on peut l'avoir en streaming sur Terre TV. Et donc, je veux dire, il faut alarmer, mais en même temps, il faut intéresser les gens à l'environnement. Et ça, c'est quand même pas toujours évident. Là, par exemple, je prépare un documentaire pour l'instant pour la Fondation BNP Paribas et le laboratoire CNRS de Villefranche-sur-Mer sur l'acidification des océans. Donc, a priori, c'est un sujet, l'acidification, c'est déjà rien que le mot, déjà, ça fait un petit peu peur. Donc, comme l'équipe du CNRS avec plusieurs laboratoires, et y compris un laboratoire en Californie, vont tester un appareil qui va être mis sur le sol de la baie de Villefranche pour tester un petit peu comment ça peut se passer si on augmente l'acidité des océans, de jouer un film un petit peu aventure pour essayer de se dire, voilà, on va être dans un film sympathique, scientifique, mais en même temps, on a quand même un message à faire passer, mais il faut le faire, à mon avis, il faut le faire passer en douceur, de peur de refermer le public. Donc c'est tout un challenge, et là, je me dis, bon, est-ce qu'à un moment donné, en essayant d'écrire ce film le plus positivement possible, même de dire, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut faire à un niveau local, est-ce que je vais arriver à intéresser une chaîne de télé hertzienne, donc avec un gros potentiel de dissémination, que ce soit vu par beaucoup de monde? Là, pour l'instant, j'en suis pas sûr. Donc à moi de mettre toute ma foi dans ce film pour le rendre à la fois sympathique et à la fois que le message arrive à traverser les images par un bon film d'aventure, des scientifiques qui testent, exploits technologiques, exploits scientifiques et en même temps avec un sujet qui est presque global, quoi, un sujet planétaire.
Le niveau de conscience est assez élevé, le niveau des océans monte, mais le niveau de la conscience monte aussi.
Alors ça c'est intéressant, puis c'est la base de tout. Produire des informations sur ce qui va se passer pour les décideurs. Alors c'est qui les décideurs? Évidemment c'est des gens qu'on élit pour, dans beaucoup de pays, au suffrage universel, mais parfois c'est des gens quand même, il faut le dire, dans lesquels on ne se reconnaît pas du tout en tant qu'individu. Ils sont élus et ils vont appliquer des politiques qui sont des politiques que, même parfois, ou quand il y a des sondages qui montrent, qui vont aller complètement à l'envers de ce que voudrait même l'opinion publique, que ce soit le nucléaire ou d'autres approches de l'environnement. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est une des limites de la démocratie. C'est pas que je vais proposer un autre système, puisque j'ai l'impression que la Terre a connu tellement de systèmes politiques, que ce soit les dictatures, les royautés ou toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la démocratie, là-dedans, ne fait pas quand même preuve non plus d'une réussite totale, en tout cas au niveau de l'environnement. On sent bien que les pressions économiques, etc., quand même, tiennent la vedette par rapport aux pressions écologiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se sent. Heureusement, ce qui est très encourageant, c'est que, bon, ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce métier. Et vraiment, 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 ça se ressent. Je veux dire, quand j'ai fait ma thèse vétérinaire sur les orang-outans à Sumatra et Bornéo, et quand je voyais sur 3 ans des pans de forêt qui tombaient où il y avait des orang-outans avant, c'était effarant de se dire ça à une période où je me souviens encore d'une affiche à Sumatra, la première fois où je suis arrivé à Sumatra, où c'était marqué « Hier, la jungle, yesterday, a jungle, tomorrow, a town, demain, une ville ». Et c'était, à l'époque, c'était vraiment une marque d'évolution, de se dire « Ah, on va remplacer cette jungle où il y a plein d'insectes qui vous piquent, où il y a des animaux qu'on ne connaît pas, par une ville, et voilà, le béton, ouf, va remplacer la nature. » Et ça, évidemment, ça a changé. Alors, même si ça peut continuer, cette prise de conscience, elle est là, on la voit, mais par contre, ce n'est pas encore elle qui a le pouvoir. Alors ça, c'est clair, pour l'instant, ce n'est pas elle qui a le pouvoir, il s'agit de tenir, en espérant qu'on n'aura pas trop de raclées que la nature va nous donner en retour des excès, et du déséquilibre, en fait, qu'on va... On va être les premières victimes, les humains, on va être franchement les premières victimes dans notre confort de vie, migration de population, des climats qui vont changer, ça va manquer d'eau, notre confort occidental, petit à petit, il y a des chances qu'on le perde, la nature, elle s'en remettra, peut-être avec une autre forme de biodiversité, mais elle s'en remettra, il n'y a pas de souci. Nous, par contre, on va souffrir, ça c'est clair.
L'océan brûle-t-il est en visionnage libre sur Terre TV jusqu'au 15 janvier 2012. Mm-hmm.